Alors, combien de fois avons-nous entendu dans notre vie des personnes qui disent « Je ne peux pas croire en Dieu avec tous les malheurs qui arrivent. Je ne peux pas croire que notre monde ait été fait par un Dieu d'amour en voyant la violence, tout ce qui se déchaîne. » Oui, que pouvons-nous dire à ceux et celles qui s'adressent à nous ainsi? Quelle est la réponse de Jésus? Eh bien, c'est justement à cause de la présence du mal sur terre qu'il devient urgent de se tourner vers Dieu. C'est parce qu'on a l'impression que le mal dirige le monde qu'il est de notre responsabilité de convertir notre regard. Jésus constate, donc ça fait quand même plus de 2000 ans maintenant, il constate avec ses interlocuteurs le mal absurde qui arrive dans la vie. Dans les deux exemples qu'on lui rapporte, le premier raconte d'abord un scandale religieux. Des personnes de Galilée ont été tuées par les Romains et Pilate a mêlé leur sang au sacrifice fait dans l'enceinte du temple. C'est un sacrilège. Et le deuxième récit parle de la destruction d'une tour qui a entraîné la mort de 18 personnes. Pourquoi cet accident est-il arrivé ? C'est bien souvent ce qu'on se demande quand survient ce genre de malheur. Comment cela a-t-il été possible? On cherche une cause. Bien souvent, c'est pour apprendre de nos erreurs. Mais cela m'évoque aujourd'hui les manifestations du peuple serbe. Ce peuple voudrait que justice soit faite à propos de l'effondrement de la gare. Ça s'est fait en novembre dernier à Novi Sad. La gare s'est effondrée, du coup il réclame une enquête pressentant la corruption du gouvernement. Jésus prend en compte ces drames et va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, mais qu'ont-ils donc fait ces gens pour subir de tels malheurs? Sont-ils plus mauvais que les autres? Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était courant d'attribuer un malheur au péché de la personne. Dans tout l'Ancien Testament, on a ce genre de théologie, on appelle ça la théologie rétributive. Par exemple, d'après les prophètes, le peuple d'Israël méritait le malheur qui est arrivé avec l'exil à cause de leur désobéissance à Dieu. Mais encore aujourd'hui, c'est un réflexe, j'aurais envie de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive tout ça? C'est le titre d'un film que vous avez peut-être vu. Pourtant, la venue de Jésus est fondamentale pour déconstruire cette croyance. « Non, je vous le dis, » dit Jésus. Le mal n'a pas de raison logique. Ce qui arrive n'est pas dû au mérite ou aux fautes des êtres humains. Le mal, quel qu'il soit, est toujours absent, absurde, que ce soit la maladie, l'accident ou d'autres malheurs. Jésus ne cherche pas d'explication. De toute façon, les gens sont morts et on ne peut pas les faire revivre. Ça ne sert à rien de chercher un pourquoi. Par contre, Jésus veut emmener ses interlocuteurs plus loin et nous avec. Après ce « non, je vous le dis » vient un « mais ». « Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même ». Alors là, on est un petit peu déstabilisé. Ce n'est pas très très réjouissant. On ne comprend pas bien cette phrase de Jésus. Est-ce que ça veut dire que Dieu va nous punir si on ne se convertit pas? Alors il faut faire toujours très attention avec notre logique cartésienne, parce qu'en fait, on a envie de faire du contraire de la phrase de Jésus une vérité, et en fait, on ne peut pas raisonner avec cette logique-là. Il faut se garder de faire une vérité de son contraire. Jésus veut nous déplacer. Le « mais » de Jésus nous emmène ailleurs. Il nous fait comprendre que nous pouvons nous fortifier pour affronter le malheur. C'est en Dieu que nous pouvons puiser notre force, notre résistance et notre espérance. Nous éprouvons, comme tous nos contemporains, un sentiment d'absurdité, de tristesse, de colère peut-être, de découragement, d'impuissance face au mal qui survient. Mais les disciples n'ont-ils pas connu ce même sentiment d'impuissance, de découragement, de colère devant Jésus quand il est pris et crucifié. La mort de Jésus sur la croix brise définitivement le lien entre le malheur et le péché de la personne. Jésus, l'homme sans péché, va subir la torture, il va souffrir et mourir. Mais son histoire ne s'arrête pas là et Dieu prend le relais. Par sa puissance d'amour, il fait surgir la vie là où on ne l'attendait plus. Il nous invite à transformer notre regard par cet événement. Et c'est ça, la conversion. C'est ça, se convertir. Le mot grec, en fait, c'est la métanoïa. C'est le changement de la pensée, du raisonnement. En effet, le mal, en fait, déshumanise l'homme, l'être humain, parce qu'il fait croire qu'il a le dessus. Si nous nous convertissons, eh bien, nous changeons de pensée, nous changeons de croyance, nous pouvons mettre en avant toutes les occasions où la vie prend le dessus. Voulons-nous laisser les mauvaises nouvelles du monde nous accabler ? Voulons-nous laisser les prophètes de malheur nous dicter ce que nous devons penser ? N'est-ce pas à nous, chrétiens, de tenir à la bonne nouvelle apportée par Jésus ressuscité, de tenir une espérance qui dépasse le mal et la souffrance, de mettre en lumière toutes les initiatives qui permettent à des gens de vivre toute la solidarité humaine capable de merveilles. La conversion, la foi en Dieu n'est pas une protection. Ce n'est pas une assurance contre tout ce qui pourrait nous arriver de mal. Mais c'est une façon de vivre sans se laisser détruire de l'intérieur par les forces du mal et du découragement. C'est vouloir rester dans la lumière de Dieu, dans la lumière du Christ. Alors se préparer à Pâques pendant le temps du carême, eh bien, c'est tenir ensemble l'image du Christ crucifié et en même temps revenu à la vie, ressuscité. C'est à nous de tenir ferme pour ne pas faire de concessions au mal. Un jour, sur une carte de vœux, j'ai lu cette phrase. Laisse ton sourire changer le monde, mais ne laisse pas le monde changer ton sourire. Que voulons-nous dire à nos voisins, à nos collègues, à notre famille, à tous ceux qui se plaignent ? Que voulons-nous leur dire en ce temps de carême, à cette approche de Pâques ? Peut-être que nous tenons dans les mains la plus formidable espérance qui existe. Aucune autre puissance que celle de l'amour révélé par Jésus ne peut prétendre à l'éternité. Oui, dans notre rendez-vous de l'Assemblée Générale d'aujourd'hui, souvenons-nous-en. Parce que Dieu n'a que nous pour le dire. Il n'a que nous pour révéler cet amour. Il a besoin de chacun de nous pour témoigner de cette bonne nouvelle. Personne ne le fera à notre place. Alors c'est à nous de tenir et d'entretenir notre espérance. Notre vie n'est pas en péril. Nous la confions à Dieu, au Père qui nous donne la force de vie. Et nous savons que quoi qu'il arrive, nous serons toujours avec lui et lui avec nous. Amen.